Europe 1. On de la traconte, la suite de votre récit.
Et donc, les collègues se renseignent et ils découvrent que le brigadier Pardiès n'a pas quitté la police. Il s'est fait radier. Une bavure, peut-être ? Pas du tout. Il s'est fait radier parce qu'il était ripou de chez ripou. Et d'ailleurs, il a fini au Newf. Un flic. Bon, alors, j'ai feuilleté son dossier. C'est pas d'hier, hein. Ça remonte à 1973. On a découvert à l'époque qu'il était à la tête d'un gang de braquos. Une bande qui a commis au moins 7 braquages entre 71 et 73. Essentiellement sur la Côte d'Azur. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul poulet de la bande. Et puis, il y avait aussi ses deux frères dans le coup. Et là, les policiers de la Sûreté de Toulon ressortent les vieux dossiers. Au début des années 70, il n'y avait pas de sas de sécurité dans les banques. Alors voilà comment ils procédaient. Ils commençaient par se grimer. Perruque, lunettes à grosse monture et bonnet marin. Et ensuite, Pardiès rentrait dans la banque. Bonjour. Je voudrais ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît.
Bonjour, monsieur.
Bien entendu. Alors, pour commencer, il faudrait que vous me remplissiez ce formulaire. Tenez, prenez votre temps. Et là, un deuxième membre du commando rentrait à son tour dans la banque.
Bonjour. Je voudrais ouvrir un compte épargne, s'il vous plaît.
Et là, idem, le guichetier lui tendait un formulaire. Et comme le comptoir devant le guichet était pris par le premier, le caissier était obligé de se déplacer, pas beaucoup, hein, un mètre ou deux, mais suffisamment pour s'éloigner de la pédale d'alarme. Et là, badaboum, Pardiès sortait son pistolet de service, haut les mains, peau de lapin, la caisse est vite. Bon, en général, ça se passait le samedi, hein, à l'époque Pardiès travaillait à Paris, et le dimanche, ben, il prenait l'avion pour Paris, et le lendemain, ben, il prenait son service dans son commissariat. Et comment il s'est fait pincer ? Pardiès ? Eh bien, c'est l'un de ses frères qui a déconné. Donc, avec l'argent, il a commencé à faire le beau, à s'acheter de belles voitures, à dépenser beaucoup d'argent dans les restaurants, tout ça. Il avait un train de vie très au-dessus de ses moyens. Ça a fini par attirer la suspicion des collègues de l'époque, quoi. Alors, ils sont allés chez lui. Ils sont tombés sur les perruques, les lunettes de soleil et les bonnets décrits par les témoins des 7 braquages et dont le frère a été arrêté. Et dans la foulée, tous les autres, dont Gérard Pardiès. Et il a pris combien, Pardiès, pour ça ? Il a pris 8 ans de tôle. Et on a récupéré le magot à l'époque ? Il était de combien, d'ailleurs, ce magot ? Non, on n'a rien récupéré. Il y en avait pour 1 300 000 francs de l'époque. C'était beaucoup, ouais, à l'époque. Vous voyez la piste qui se dessine lentement, mais sûrement ? Pardiès a gardé l'argent. 40 ans plus tard, ses complices viennent récupérer leur pognon, ça dégénère et ils le zigouillent. Bon, entre nous, c'est une piste un peu moisie parce que pourquoi est-ce qu'ils auraient attendu 40 ans ? Mais bon, les policiers de Toulon prennent la liste de ses complices de l'époque et ils se lancent à leur recherche pour constater que la plupart sont morts. Morts et enterrés. Rien à gratter de ce côté-là. La piste des vieux braquos se referme. À partir de là, les flics en reviennent au fils, Frédéric. Celui qui, la nuit du crime, enfin, du probable crime, dit qu'il a passé la nuit de la Saint-Sylvestre chez lui. Et ils s'aperçoivent que quelques mois plus tôt, Frédéric Pardiès a déposé une plainte pour le vol de son ordinateur. Bon, alors, j'ai la plainte sous les yeux, et alors c'est bougrement intéressant parce que il a dit que l'ordinateur en question était dans la voiture d'un ami. Et je te le donne à 1000, quelle était la marque de la voiture ? Une Peugeot 405 ? Exactement. 5 jours après la disparition sanglante du brigadier Pardiès, les policiers déboulent dans le foyer où vit le fiston, à Bormes-les-Mimosas. Enfin, où il vivait.
Ah ben il est parti, monsieur Pardiès. Il a déménagé tout son studio.
Et il vous a dit pourquoi ?
Il nous a dit qu'il en avait marre et qu'il avait décidé d'aller vivre à l'étranger. C'est tout ce qu'il nous a dit.
À l'étranger ? Nom de Dieu, il s'est barré. Eh ben non, pas encore. Pile à ce moment-là, les policiers le voient débarquer en scooter devant le foyer. Sourire aux lèvres. Il est venu dire au revoir à ses copains. Le con. Bim bam boum, le voilà avec les menottes.
Dites-moi, monsieur Pardiès, vous nous avez jamais dit que vous aviez l'habitude de vous servir d'une 405 Peugeot qui appartient à l'un de vos copains?
Oui, c'est parce que je m'en sers très peu. Ça m'est totalement sorti de la tête.
Elle est où, cette 405, monsieur Pardiès?
Suivez-moi, je vous la montrerai.
Et là, Frédéric Pardiès les amène devant une vieille caisse garée juste à côté.
Mais c'est une épave, ça, monsieur Pardiès.
Et regardez, les pneus sont à plat. Vous êtes en train de nous balader, monsieur Pardiès. Nous, ce qu'on cherche, c'est une voiture qui roule.
Bon, d'accord. J'en ai une autre là-bas, sur le parking.
Et là, il est conduit devant une Peugeot 405 grise, rutilante. Carrosserie impeccable. On dirait qu'elle est neuve. Alors qu'elle a au moins 30 ans. Les policiers lui demandent de l'ouvrir.
Dites-moi, monsieur Pardiès, et le sang, l'eau de Javel, votre 405, vous l'avez nettoyé?
Ah ben oui, c'est normal, hein. Mon pote me la prête. Par gentillesse, je le lui ai lavé.
Bien sûr. La suite, vous vous en doutez, les policiers de la scientifique débarquent et pchit, 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 ils pulvérisent du luminol dans la caisse.
Et ben voilà. Il y a des traces de sang dans cette voiture, monsieur Pardiès. Comment vous expliquez ça?
Il ne l'explique pas. Et il a l'air bien embarrassé.
Reste à savoir si le sang en question est celui de son papa. La question, elle est vite répondue.
Bon, on a procédé à des comparaisons génétiques. Hein. Aucun doute, il s'agit bien du sang de Pardiès Gérard.
Le fiston a tué son daron et transporté son cadavre dans la 405. Il ne peut plus nier. Il est coincé.
Ok, je vais tout vous raconter. Mais je veux que vous soyez là, tous. Tous autour de moi, tous les policiers. Je veux que tout le monde entende ce que j'ai à dire.
Étrange requête. Mais bon, si c'est pour des aveux, tous les enquêteurs de la sûreté débarquent dans le burlingue. Et il avoue, en larmes.
Oui, je l'ai tué. Si vous saviez ce qu'a été ma vie avec lui, il m'a pourri toute mon enfance. Mon père, mon propre père. Ça faisait 20 ans que je me disais, mais putain, qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il m'aime pas? Je voulais lui parler, je voulais juste qu'il m'explique, je voulais, je sais pas, essayer de recoller les morceaux. Et voilà, comme toujours, on s'est engueulé. Et on en est venu aux mains. Et ça a mal tourné. Voilà.
Et concrètement, monsieur Pardiès, comment ça s'est passé?
Mais je suis allé chez lui. Je l'ai attendu en bas de l'immeuble. Je voulais juste lui parler pour comprendre toute cette haine qu'il avait pour moi. Il est arrivé en vélo et il m'a dit « Dégage, je veux pas te voir ».
Il dit qu'il n'a pas supporté et qu'il l'a attrapé par le colbac. Que le père, du haut de ses 77 ans, l'a repoussé, que ça l'a rendu fou et qu'il a commencé à le frapper.
J'ai enchaîné, je ne me contrôlais plus. Je lui ai filé des coups de pied, des coups de poing, des coups de genou. J'étais devenu fou. Mais au départ, je ne voulais pas le tuer.
Et le corps, où est-il?
Ça, je vous le dirai pas. Je l'ai renvoyé au néant.
Ce qui revient à rendre toute autopsie impossible. Impossible de vérifier son scénario du fiston devenu fou. Parce que tout de même, il y a quelque chose qui ne colle pas. Dans la flaque de sang, il y avait des morceaux de chair et des morceaux d'os et des morceaux de dents. Ça laisse penser qu'il y a eu plus qu'une bagarre. Mais sans cadavre, impossible de le prouver. Mis en examen pour meurtre, Frédéric Pardiès file en prison. Et en prison, sa santé mentale se dégrade très vite. Il est placé dans une unité de soins psychiatriques. Et un jour, il appelle sa sœur aînée, que les flics ont placée sur écoute.
Le corps de papa, je l'ai jeté à la mer. Je l'ai mis sur un canoë, je l'ai lesté une ceinture de plomb. Et j'ai coulé le canoë. Ils le retrouveront jamais.
Et effectivement, on ne le retrouvera jamais. On aura droit à un procès sans cadavre. Le procès de Frédéric Pardiès s'ouvre 3 ans après le crime. Et sur le banc des parties civiles, ben, y a que sa sœur. Et elle a prévenu.
Vu ce qu'il a subi pendant son enfance, Frédéric, va pas falloir compter sur moi pour l'enfoncer.
Et donc l'avocat de la défense a les mains libres. Libre de faire passer la victime pour l'accuser. Le mort était un salaud, un flic ripou, un père qui battait femme et enfant. Et personne ne lève le petit doigt pour défendre Gérard. Et la suite coule de source. L'avocat général ne requiert que 20 ans de prison. Et les jurés ne condamnent Frédéric Pardiès qu'à 12 ans de réclusion criminelle. Et vous, vous qui m'écoutez, vous qui jurez que vous ne tueriez jamais personne, vous seriez capable d'un tel crime? Tuer un salaud, vous en seriez capable? Peut-être, hein? Peut-être.
Cette histoire, Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.